RTS La Première présente Mystifica Science, un podcast de CQFD qui s'intéresse aux grandes impostures scientifiques, avec l'agente Leslie et Adrien Zerbini. C'est une vieille histoire qui ressurgit souvent. L'humanité aurait pu se débarrasser de la malaria si l'on n'avait pas interdit l'usage d'un insecticide très puissant, le DDT. Oui, mais voilà, selon l'agente Leslie, ça n'est pas un hasard si cette histoire revient à épisodes réguliers. Et les semeurs de doutes n'y sont pas étrangers.
C'est vrai qu'on a affaire à un scénario choquant. D'un côté, on a l'une des plus terribles maladies au monde, le paludisme. Plus de 400 000 morts chaque année, principalement des enfants. Donc plus de 1 000 morts par jour. D'un autre côté, on a un insecticide emblématique, le DDT, dont on s'est servi abondamment en Europe, par exemple en Italie, et aux États-Unis, dans les États du Sud, pour se débarrasser des moustiques et de la malaria. Un insecticide dont le Conseil scientifique du président des États-Unis a conclu en 1972 que les preuves scientifiques étaient suffisantes pour justifier son interdiction dans son pays. Est-ce que, si on avait continué à utiliser le DDT, la malaria ne sera aujourd'hui qu'un lointain souvenir? En d'autres termes, est-ce que des millions de personnes sont mortes pour éviter une pollution par le DDT qui n'aurait sans doute pas tué grand monde? De nombreuses personnes le pensent et le font bruyamment savoir.
Première question, est-ce que l'interdiction d'utilisation promulguée par les États-Unis en 1972, vous l'avez dit, est-ce que c'était une interdiction mondiale?
Non, non, bien sûr. Même si on dit que l'Amérique est hégémonique, elle n'a pas le pouvoir d'interdire mondialement une molécule. Mais pour comprendre ce qui s'est passé et aussi pourquoi cette histoire est encore importante aujourd'hui, il faut remonter un peu dans le temps. En 1874 fut synthétisé pour la première fois le DDT, une molécule de la famille des organochlorés. Une molécule dont on ne sait pas trop quoi faire à l'époque. Puis, en 1940, un chimiste suisse, Paul Müller, travaillant à Bâle dans la protection des plantes, recommence à étudier le DDT et là, bingo, il remarque ses propriétés insecticides et tout de suite, le DDT est utilisé dans la Deuxième Guerre mondiale.
Et pourquoi l'utiliser dans la guerre?
Mais dans toutes les zones où sévissent la malaria ou le typhus, transmis lui par un poux, on utilisait abondamment le DDT qui était directement appliqué sur la peau ou les vêtements des soldats, ou encore répandu directement par avion. Apparemment, il ne présentait aucun effet négatif sur les troupes et il était bon marché. Après la guerre, on crédita le DDT de nombreuses vies sauvées. Et soyons honnêtes, c'était vrai. D'ailleurs, en 1948, Paul Müller, ce chimiste suisse, reçoit le prix Nobel de médecine. Ce qui est en réalité le prix Nobel de physiologie ou médecine. Et c'est d'ailleurs la première fois qu'un chimiste, donc ni médecin, ni chercheur dans le domaine médical, reçoit ce prix. C'est dire que le DDT était très bien considéré.
Alors vous le dites au passé, évidemment cette estime du DDT n'allait pas durer.
Oh, tout de même, plus que 30 ans, hein. C'est pas si mal, finalement. En fait, après la guerre et après avoir effectivement débarrassé certaines régions de la malaria et du typhus, on s'est mis à utiliser massivement le DDT dans l'agriculture. Il faut dire, encore une fois, qu'il était efficace et bon marché. Et puis, on était convaincu que le DDT était sans danger pour l'homme.
Alors qu'en fait, il était dangereux pour l'homme ?
Bonne question. Et encore une fois, pour vous répondre, il faut que je vous raconte un peu une histoire.
Mmh, on va étonner, vous ayez une réponse simple et rapide à me donner.
Mais vous êtes toujours trop pressé, de toute façon. Ouais, voilà. C'est l'histoire d'une biologiste dont le nom vous dit peut-être quelque chose, Rachel Carson. À l'origine, elle est spécialiste de la faune aquatique. Elle travaille à the US Fish and Wildlife Service.
Donc dans le service américain des poissons et de la vie sauvage.
Exactement. Elle et quelques-uns de ses collègues remarquent qu'il y a un lien entre l'épandage massif de DDT et les maladies chez les poissons et les oiseaux. Il publie quelques textes dans des revues spécialisées, mais ses recherches n'intéressent personne. Le DDT est un miracle qui permet de rendre l'agriculture bien plus productive qu'elle ne l'avait été. On ne va tout de même pas s'intéresser à un poisson ou un oiseau malade. Alors, Rachel Carson eut deux idées. 1. Faire une enquête un peu plus large sur les effets des épandages sur les écosystèmes et 2. Écrire un livre à ce sujet. Ce que va découvrir Carson est intriguant. Elle s'intéresse notamment aux oiseaux présents dans les campus universitaires. Elle constate que là où il y a des épandages, il y a moins d'oiseaux. En fait, elle réalise que le DDT supprime aussi bien les insectes nuisibles que les utiles. Par exemple, elle note que, dans certaines régions, les insectes dont se nourrissent les saumons ont disparu. Ce qui, évidemment, cause la mort des saumons.
Alors, tout ce que vous dites là résonne comme un argumentaire écologique qui, aujourd'hui, est bien connu, en fait.
Oui, mais c'était une pensée tout à fait nouvelle dans le début des années 60. Et lorsque son livre « Silent Spring » est publié en 1962, il provoque l'effet d'une bombe.
Alors, « Silent Spring », ça veut donc dire « printemps silencieux ».
Oui, l'idée de Carson est que le symbole du printemps, sans le retour des oiseaux qui chantent, est beaucoup plus fort que celui-là d'un poisson qui meurt de faim. Mm-hmm. Il faut dire que cette femme a indéniablement un certain talent d'écrivain.
Alors, une question un peu technique peut-être, mais dès la fin de la Deuxième Guerre, il y eut plusieurs pesticides de synthèse qui ont été largement utilisés, pas uniquement le DDT. Alors, est-ce que Carson, dans son livre, ne parle que du DDT ?
Non. Elle parle également d'autres molécules qui ont un impact semblable sur le silence des oiseaux. Mais le fait est qu'elle s'alarme plus particulièrement avec le DDT parce qu'elle note que celui-ci est persistant dans la nature. Il s'accumule dans la chaîne alimentaire pendant que d'autres se dégradent. Donc, ses effets sont persistants.
On est donc en 1962, Rachel Carson publie son Silent Spring, le livre marque les esprits. Alors, que va-t-il se passer ?
Bon, pour une fois, je vais aller un peu vite.
Mais non.
Oui, surprise, surprise. En 1970, sur présidence Nixon, est créée la fameuse EPA, the United States Environmental Protection Agency.
Donc l'Agence américaine de protection de l'environnement.
Oui, et Nixon demande à la EPA de faire une étude sur l'impact du DDT. Les conclusions de la EPA sont identiques à celles de Carson. Et en 1972, les États-Unis interdisent sur leur territoire, bien entendu, l'utilisation du DDT.
Si je vous comprends bien, tout ceci s'est déroulé sans que l'industrie des pesticides ne réagisse.
Vous voulez que j'aille vite ? Alors, je vais vite. Mais si, évidemment, dès la parution du livre, l'industrie a répliqué. Rachel Carson était décrite comme hystérique et émotive, ce qui, soit dit en passant, était presque considéré comme normal, car c'était avant tout une femme.
Mais bien sûr.
Ouais. Ils affirment que la science sur laquelle elle s'appuyait était anecdotique, non fondée, inadéquate et fausse. Et bien entendu, ils menacèrent les éditeurs de Carson de poursuites judiciaires.
Ok, tout de même. Bon. Mais alors, ces industriels-là n'avaient, si je comprends bien, pas de relais influent dans le gouvernement.
Mais à mon avis, si les industriels ne sont pas battus pour le DDT, c'est pour une autre raison. Mais je vous l'expliquerai un peu plus tard. Et puis, d'un autre côté, même si Richard Nixon n'était sans doute pas super sensible à la question d'environnement, il comprenait très vite que la population, elle, était attentive à cette question et elle ne pouvait pas passer à côté.
Il est assez logique que l'industrie agrochimique de l'époque ait voulu faire passer Rachel Carson pour une hystérique. Notons d'ailleurs que, outre le fait que Carson était une femme, celle-ci n'était pas mariée et même très proche d'une autre femme, ce qui permettait pour ses opposants de souligner son côté, entre guillemets, hystérique. Mais le plus étonnant dans cette histoire, c'est que, beaucoup plus récemment, avec l'arrivée des réseaux sociaux, on continue d'attaquer violemment Rachel Carson, notamment en 2007, où on la compare à Hitler ou à Staline. Pourquoi ? Parce qu'à cause d'elle, lit-on, des millions de personnes sont mortes de la malaria. Certaines attaques sont anonymes, bien entendu, mais pas toutes. Comme le révèlent Naomi Oreskes et Eric Conway dans leur ouvrage « Les marchands de doute » aux éditions Le Pommier, différents groupes de réflexion conservateurs ont signé des articles violents. Le Competitive Enterprise Institute affirme sur son site « Des millions de gens de par le monde ont été victimes des effets douloureux et souvent mortels de la malaria parce qu'une personne a lancé un signal d'alarme erroné. Cette personne, c'est Rachel Carson. » Un autre groupe, l'American Enterprise Institute, écrit, je cite, « Le DDT fut probablement le seul produit chimique efficace jamais synthétisé pour prévenir des maladies. » Mais il fut interdit sans nécessité à cause de l'hystérie généralisée par l'influence de Carson. Mais dans le fond, Carson parlait surtout des effets néfastes du DDT sur l'environnement. Est-ce que, concernant la malaria et ses millions de morts, le DDT n'aurait pas pu être la solution ? En gros, est-ce que, d'une certaine manière, ces groupes de réflexion, entre guillemets, n'ont pas un peu raison ? L'agente Leslie nous en parle.
Comme souvent, les groupes de réflexion qui attaquent encore aujourd'hui Carson ont la mémoire courte. Ou alors, ils ont des trous de mémoire. Après le succès du DDT pendant la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis et l'Organisation mondiale de la santé ont lancé une campagne globale d'éradication de la malaria en 1955. Cette campagne s'appuyait sur l'utilisation du DDT. Pourtant, elle s'est arrêtée en 1969, donc avant l'interdiction américaine du DDT. Pourquoi ? Essentiellement pour un problème qui touche tous les insecticides de synthèse, la résistance. En 1969, de nombreux moustiques avaient acquis la résistance au DDT. En fait, cette résistance a déjà été observée en 1947 à Fort Lauderdale, en Floride. Les employés chargés de la lutte dans les marais observent que le DDT n'a eu aucun effet discernable. L'une des plus ferventes opposantes à Carson était, elle aussi, une biologiste, Dixie Lee Ray. Dans son livre « Trashing the Planet », elle écrit un paragraphe qui a beaucoup nourri la controverse Carson. Elle écrit ceci. En 1948, avant l'utilisation du DDT, on comptait 2,8 millions de cas de malaria par an en Sri Lanka. En 1963, il n'y en eut que 17. l'infection resta à ce bas niveau jusqu'à la fin des années 60, au moment des attaques contre DDT. En 1968, il y a eu 1 million de cas de malaria au Sri Lanka. En 69, 2,5 millions.
Ok, donc on voit bien l'histoire, il y en avait énormément, puis plus du tout, et c'est reparti. Je dois dire que cet exemple est extrêmement parlant.
Oui, mais ce que oublie de dire Dixie Lee Ray, c'est que pendant tout ce temps, le Sri Lanka n'avait jamais arrêté d'utiliser le DDT. Elle fait un lien non pertinent avec la politique américaine. Au Sri Lanka, ces changements ont eu lieu alors qu'on utilisait encore et toujours plus même le DDT jusqu'en 1975. Et si, en 72 aux États-Unis, l'industrie ne s'est que peu battue pour sauver le soldat DDT, c'est qu'en fait, il n'était déjà plus très efficace. Voilà pourquoi dire que si la malaria sévit encore sur Terre aujourd'hui, c'est parce qu'on a interdit l'utilisation des DDT est tout simplement un mensonge.
Bon, au moins ça c'est dit et c'est assez convaincant. J'ai encore deux questions pour vous. La première, parce que je ne crois pas qu'on y ait répondu, c'est... Est-ce qu'en fait le DDT est vraiment dangereux pour l'homme?
Carson était prudente sur cette question. Elle notait que cette molécule interférait sur le système de reproduction des oiseaux et des rats, donc les risques pour l'humain n'étaient pas exclus. Mais son livre date de 62. Depuis, les scientifiques lui ont donné raison. Dans une étude publiée en 2005, dans la revue médicale Lancet, il est démontré que le DDT affecte les capacités reproductrices de l'humain. L'article note également que dans le lait maternel, le DDT est corrélé avec une réduction de la durée d'allaitement, un sévrage prématuré et donc, dans les pays en voie de développement, une mortalité périnatale accrue. L'autre impact qui, depuis quelques années, a été démontré, c'est celui sur le cancer, en particulier du sein. Entre 2000 et 2001, une étude américaine s'est penchée sur des femmes sexagénaires qui avaient été exposées ou pas au DDT lorsqu'elles étaient jeunes.
Et comment est-ce qu'on peut savoir si ces femmes ont été exposées bien des années auparavant?
Ah oui, très intéressant. Je vous les ai dit, le DDT est persistant. Donc, on retrouve dans leur sang, 60 ans plus tard, des métabolites du DDT. Quoi qu'il en soit, l'étude montre que les femmes exposées au DDT ont un risque multiplié par 5 de développer un cancer du sein. Donc, non seulement le DDT n'aurait pas pu stopper la malaria, mais en plus, Rachel Carson avait raison. Pour l'environnement comme pour la santé humaine, il fallait arrêter de l'utiliser.
Enfin, une dernière question. Vous l'avez dit, dès 2007 et aujourd'hui encore, certains groupes de réflexion attaquent les travaux de Rachel Carson et continuent à nous chanter les louanges de cette molécule de DDT. Pourquoi est-ce qu'ils font ça?
Rachel Carson est sans doute une pionnière. C'est celle qui, par ses travaux et par son livre « Silent Spring », a fait changer la législation et même finalement interdire l'utilisation d'une molécule. Pour ces, entre guillemets, groupes de réflexion, c'est le casus belli. C'est le début d'une guerre entre le commerce et les environnementalistes. Que ces scientifiques s'intéressent aux oiseaux et aux poissons, pourquoi pas? mais qu'ils ne viennent pas nous empêcher de commercer et d'améliorer la productivité agricole. Dans l'esprit de ces lobbyistes, parce qu'on devrait dire lobbyistes plutôt que groupe de réflexion, si l'on démontre que Rachel Carson avait tort et au passage qu'elle a fait plus de morts que Hitler, alors qu'on aura des arguments forts contre les scientifiques d'aujourd'hui, du moins ceux dont les résultats ne nous arrangent pas. Donc, on utilise toujours la même ficelle. On crée un doute. Carson, écologiste soucieuse de l'environnement ou dangereuse criminelle? Point d'interrogation. Et comme vous le savez, aucune certitude ne résiste quand le doute a germé dans votre esprit.
Vous me semblez avoir des certitudes assez solides, vous. Mais alors, que faire? Parce que douter, souvent c'est bien. Douter, c'est se poser des questions, non?
Il faut toujours bien observer les réponses que l'on trouve à certaines questions et se demander à qui, éventuellement, ces réponses profitent. Et puis, tant pis si je passe pour un ancêtre, mais vous remarquez que chaque fois que je vous parle d'un sujet, il me faut au moins 10 minutes.
Voire un peu plus. Hein.
Thank you. Pour vous l'expliquer. Méfiez-vous donc des explications rapides et simplistes. La vérité comme la vie est rarement simple. Et puis, laissez-moi vous citer un écrivain français pour une fois, Anatole France, qui doutait souvent et qui disait simplement ceci. Il faut douter du doute.
Cet épisode de Mystifica Science a été imaginé et écrit par Adrien Zerbini. Réalisation, Jean-Claude Gailly. Mystifica Science est un podcast de la RTS. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. D'autres épisodes vous attendent, notamment celui qui raconte l'histoire d'un grand scientifique qui, en toute bonne foi, allait inventer le mythe du yogourt soi-disant bon pour notre corps.